J'ai le sentiment d'avoir beaucoup de choses à vous dire, je vous propose de commencer tout de suite. Et le problème, c'est que, en fait, on a d'abord un réflexe de peur quand on parle du corps et de la Bible, parce que notre premier réflexe, c'est évidemment, on a des idées comme ça qui viennent systématiquement, ah, le corps et la Bible, ah, bah, pour la femme, c'est l'accouchement douloureux et violent. Bon, ensuite, évidemment, et puis pour Adam, c'est qu'évidemment, il va travailler dans la douleur, dans le bécher, la terre, c'est dur, il va souffrir. Et puis on en reste là, avec des images négatives et des images qui sont vraiment très pénibles. Or, en fait, ce que j'ai découvert justement grâce à la connaissance de l'hébreu, c'est que la langue hébraïque est une langue charnelle. Ce n'est pas du tout une langue comme la langue grecque où vous avez des concepts et des concepts philosophiques, spirituels. L'hébreu part avant tout de la réalité du corps. Et le corps a des choses à nous dire. Et c'est ça ce qui est absolument extraordinaire, parce qu'il nous montre que le corps est notre intermédiaire pour toucher, saisir, embrasser, et que c'est avec son corps que Jésus a manifesté sa compassion, lui qui embrassait les enfants que les apôtres repoussaient, lui qui touchait les aveugles et les lépreux, et qui n'avait pas peur de prendre sur lui la contagion du mal. Mais justement, ce qui est intéressant aussi, c'est de bien mettre en valeur le fait que Jésus s'est servi de son corps, il s'est servi de ses mains pour guérir et pardonner, il a usé ses pieds sur les chemins de Palestine, et il a laissé couler ses larmes devant Jérusalem, il a connu la soif des agonisants, et il a versé son sang sur la croix pour nous faire revivre. Et si vous voulez, la lecture attentive justement de la Bible a permis de découvrir un vocabulaire très proche de notre vie quotidienne. Et c'est souvent un vocabulaire à double sens pour lequel nous avons besoin d'aide. Et je vous propose de découvrir le corps et ses organes et la réalité, en fait, de tous nos besoins quotidiens qui expriment quelque chose. Effectivement, la langue hébraïque est une langue charnelle qui n'hésite jamais à préciser la composition de notre corps et le rôle des organes. Mais les images, et c'est ça ce qui est formidable dans la langue hébraïque, c'est cette souplesse, les images peuvent s'inverser et en même temps aussi montrer par exemple que la bouche, qui est le symbole de la tendresse par le baiser, peut devenir aussi une bouche menteuse qui parle contre le juste avec arrogance, insolence et mépris. Et par conséquent, il y a justement cette double réalité. Alors, ce qui est magnifique dans la lecture, si vous voulez, de l'Ancien Testament, en particulier de la lecture des psaumes, c'est de se poser la question, est-ce que nous avons conscience de vivre avec notre corps? Alors bien entendu, oui, quand on a mal quelque part, ça c'est évident. Mais en fait, ce qui est très important, c'est que chacune des parties de notre corps révèle notre beauté spirituelle. Par exemple, l'image des os rongés par le péché décrit effectivement un corps qui est abîmé et qui ne peut plus se tenir debout. Et se tenir debout, en hébreu, signifie en même temps être vivant, être ressuscité, ce qui prouve comment le squelette fonctionne. Et souligner l'importance des besoins de notre corps, c'est faire valoir la création dans laquelle nous sommes immergés, et c'est en même temps réaliser justement tous les dons que Dieu nous a promis. Il y a la réalité de nos organes et il y a en même temps tous ces bienfaits qu'il faut mettre en valeur dans la Bible avec les dons concrets, le miel, l'huile, la vigne, tout cela pour dire qu'il y a en même temps une vision optimiste, et moi je suis certainement hérétique, mais ça n'a pas d'importance, je pense qu'il n'y a pas de péché de gourmandise, parce que Dieu dit dans Isaïe au chapitre 26 que Il préparera pour nous un festin de viande grasse et de vin vieux et qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Et par conséquent, je veux voir cela alors que, si vous voulez, on a trop vécu pendant des siècles et des siècles avec l'idée d'un corps qui est glouton, d'un corps qui est mauvais, d'un corps qui est dangereux et d'un corps qu'il faut maîtriser. Avec cette idée que le corps est un animal, mais un animal mauvais. Et c'est finalement avec ce vieil héritage qui continue, si vous voulez, avec cette idée cette idée qui remonte très loin, avec aussi des tendances stoïciennes. Nous avons par exemple, je crois que c'est dans Sinna, il y a Auguste qui arrive et qui dit « Je suis maître de moi comme de l'univers ». En fait, la lecture des psaumes nous montre que la réalité de notre corps, le corps est là pour organiser un dialogue avec Dieu parce qu'il nous parle à travers notre corps. Et je trouve cela, par exemple, je trouve une image extraordinairement belle. Il y a deux images auxquelles je tiens beaucoup. C'est celle des larmes. Moi, quand j'étais petite, on disait une fille bien élevée ne pleure pas. Ne pleure pas. Bon. Et au contraire, dans les psaumes, on voit que les larmes sont un langage. C'est notre corps qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de pleurer, et que ce langage-là, Dieu seul le comprend. Et dans le psaume 56, « Et nos larmes sont tellement précieuses qu'il les verse dans son outre. » Et avec cette idée que lui comprend ce langage que notre corps exprime et qu'il a besoin d'exprimer. Et puis il y a une autre image aussi que je trouve très, très belle, c'est un vieil homme qui est dans le fond de la synagogue et qui passe son temps à réciter son alphabet. Alors le rabbin vient vers lui et lui dit « Écoute, récite ta prière ». Et il dit « J'ai oublié mes prières, mais Dieu sera reconstitué ». Et par conséquent, le don du langage, vous voyez comme il nous est précieux, nous avons le don du langage et nous verrons si nous avons le temps, que j'espère, tout ce que la Bible nous dit à travers les organes du langage, que sont les lèvres, la langue, la bouche, les cordes vocales, tout cela parce que nous avons justement cet organe de la communication qui se passe à travers la réalité physique de notre corps. Alors, nous allons prendre par exemple les organes, des organes très fonctionnels, et le premier d'entre eux, c'est le cœur. Alors, nous avons une prière que mes petits-enfants aimaient beaucoup réciter parce qu'un certain nombre d'entre eux ont vécu longtemps en Espagne. Et alors ils disaient la prière des petits-enfants espagnols, la prière qui est adressée à Jésus avant de s'endormir, « Je te donne mon cœur, prends-le, désormais c'est le tien, il n'est plus à moi, il est à toi. » Alors voyons voir ce que recouvre le cœur. Dans le langage biblique, le cœur n'est pas le refuge de nos sentiments. C'est le lieu de notre volonté, c'est là où nous prenons les décisions et c'est le lieu de notre énergie. Et c'est aussi le trésor de ce que nous sommes, car C'est là que se déroule le dialogue avec Dieu, comme là le résume cette prière que tout juif croyant récite plusieurs fois par jour. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton pouvoir et de toute ta force, dans le Deutéronome au chapitre 6 au verset 4. Et par conséquent, nous avons cette réalité du cœur. Et le livre des Proverbes nous donne des images qui sont très parlantes. Un cœur joyeux rend le visage aimable, alors que dans le chagrin, l'esprit est abattu et le cœur tremble. Dans les Proverbes, au chapitre 15, au verset 13. Autre chose très, très réaliste, un cœur joyeux favorise la guérison, un esprit attristé dessèche les membres. Toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 17, au verset 22. Un cœur qui est en paix est vie pour le corps, alors que la jalousie est une carie pour les os. Toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 14, au verset 30. Donc vous voyez que la réalité du corps, se dire qu'un cœur joyeux favorise la guérison, je pense que avoir bon moral, on dit toujours que cela aide à combattre la maladie. Et donc le cœur est dans cette réalité-là. Et nous avons dans le livre des Proverbes toujours une très belle image, qui fait que, comme si notre cœur était une tablette destinée à l'écriture. Vous savez que dans l'Antiquité, on avait des petites tablettes de cire qui servaient comme des cahiers de brouillon, en fait, pour des textes que l'on pouvait ensuite effacer, reprendre, pour prendre des notes. Et si bien que nous avons cette image, que fidélité et loyauté ne te quittent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur les tablettes de ton cœur. Or, vous voyez que c'est une très jolie image, parce que inscrire sur notre cœur, comme s'il était un cahier, un carnet intime, les mots fidélité et loyauté, et puis finalement l'attacher autour de notre cou, comme si c'était une médaille, pour signifier, si vous voulez, notre lien avec le Seigneur. Et nous avons en même temps ce cœur auquel le Seigneur confie sa révélation. Comment est-il ? Eh bien, il y a une réalité qui est très importante et qui est très bien dite dans une prière, dans le psaume 86. « Seigneur, unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. » Alors, j'aime pas du tout le verbe craindre, parce que le verbe craindre, on a tout de suite cette idée de peur, et je trouve que c'est tout à fait le contraire. Si vous voulez, il y a, quand on aime quelqu'un, et quelqu'un en général de plus âgé, je prends l'exemple très souvent de grands-parents. Je vois, mes enfants faisaient un effort pour bien s'habiller quand ils voyaient leur grand-père, parce qu'ils savaient que ça lui ferait plaisir. Et vous voyez, c'est à la fois il le respectait, il l'aimait beaucoup. Et je pense que ce double aspect, respecter, aimer, c'est ce qu'on met derrière le verbe craindre. Mais le verbe craindre, c'est terrible, parce que tout de suite, on a ce sentiment de peur. Et Seigneur, unifie mon cœur. Et vous voyez le problème. Pourquoi est-ce que nous avons ce verbe unifier ? C'est que le cœur est le lieu de la décision. Et c'est pas simple de prendre des décisions. Et à un autre moment, dans une autre prière, on dit Seigneur, je te présente mon cœur, mais c'est un cœur qui est tordu, qui est vicié, un cœur qui ne sait pas avancer, parce que c'est un cœur qui est déchiré entre plusieurs décisions. Et vous voyez, on voit très bien cette difficulté qu'il y a à réaliser justement ce cette entrée justement dans le cœur, dans le entrer dans une paix intérieure. Et la paix intérieure passe par notre cœur. Et vous remarquerez aussi qu'il y a une vision derrière, une vision réaliste qui est très, très réaliste, c'est qu'effectivement, un cœur qui est inquiet est un cœur qui bat trop vite. Un cœur qui est inquiet, alors qu'un cœur qui est en paix, c'est un cœur, qui est bien, qui se sent bien. La notion de se sentir bien est absolument essentielle pour le corps. Et lorsque nous avons un cœur qui est plein de remords, plein de boue, plein de péchés, plein de tout ce que nous traînons avec nous, eh bien, nous avons, vous savez, ce grand psaume qu'on récite le mercredi des cendres, « Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta miséricorde, efface mon péché. » Et à un moment, nous avons, avec cette idée, « Lave-moi, mais lave-moi. » Et alors, le verbe qui est employé en hébreu, c'est aussi le verbe qui est employé en hébreu moderne, c'est le verbe laver que vous voyez sur les murs de Jérusalem, vous savez, telle lessive qui lave plus blanc. Voilà. Et avec cette idée, si c'est toi qui me lave, alors mon cœur sera blanc comme neige. Et on a besoin d'images, et avec cette image de la neige qui est la blancheur immaculée dans la Bible. Vous voyez, le vocabulaire biblique a besoin d'images concrètes et d'images réalistes. On ne doit pas... un cœur pur, c'est un cœur qui a été lavé, mais lessivé, voilà, c'est ça le terme, par la bienveillance de Dieu. Et donc, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé, un cœur broyé, un cœur qui a demandé pardon. Et nous avons, vous savez, dans cette magnifique texte d'Ézéchiel qu'on lit en général aussi à la veillée pascale, « J'enlèverai de votre corps ce cœur de pierre, un cœur qui est dur et qui est incapable de sentiments, et je mettrai un cœur de chair. » Et par conséquent, le cœur est donc un lieu dans notre corps de communication avec Dieu, un lieu très précis, puisque, encore une fois, c'est là que je prends les décisions, mais c'est aussi le lieu de la mémoire. Nous avons Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, au verset 51, qui nous dit « Et Marie gardait tout cela dans son cœur. » Et par conséquent, vous voyez que toute la réalité que représente le cœur. Deuxième exemple, ce sont les os de mon squelette. Il n'y a rien de plus pathétique que l'un des grands discours de Job qui reconnaît que Dieu l'avait créé. Et il dit ceci, de peau, la peau, de peau et de muscles, tu m'as revêtu. Avec cette idée que la peau est comme un vêtement. De peau et de muscles, tu m'as revêtu. D'os et de nerfs, tu m'as tissé. Tu m'as fait couler comme du lait et du lait qui a caillé. Et vous voyez, c'est une image très concrète, très réaliste du lait qui va cailler pour faire du fromage, mais qui représente toute cette réalité physique qui m'habite, avec effectivement mes os sur lesquels se viennent se mettre mes muscles et mes nerfs. Et Ézéchiel a cette vision extraordinaire dans une vallée de voir des ossements desséchés. Si vous allez dans les Pyrénées, où il y a des vautours en général qui sont très avides de dévorer des carcasses d'animaux, de brebis qui ont été blessées, on aperçoit souvent des carcasses d'animaux. Et à chaque fois que je vois ça, ça fait penser à ce texte d'Ézéchiel, où Ézéchiel voit des carcasses, et puis l'Esprit Saint va souffler dessus, et il va y avoir les muscles qui vont se mettre, les os qui vont se retrouver entre eux, et surtout qui vont retrouver leur place dans le squelette. Et ce qui est très important, c'est cet agencement de tous les os ensemble pour faire quelqu'un qui se tienne droit. Et se tenir droit, c'est être vivant, et être vivant, c'est être ressuscité. En hébreu, le verbe « se tenir droit » signifie aussi être ressuscité. Et par conséquent, vous voyez l'importance de l'image très concrète et très réaliste. Nous avons, par exemple, pour expliquer le péché, là encore, on se sert d'images physiques. Ma vie s'achève dans la tristesse, mes années dans le gémissement. Pour avoir péché, je perds mes forces et j'ai les os rongés. Et vous remarquerez que c'est une image extraordinaire pour décrire, je suppose, l'arthrose. Les os rongés, ça fait que les articulations, ça fonctionne plus bien ensemble. Ça, c'est dans le psaume 31, au verset 11. Et par conséquent, il y a la nécessité pouvoir avoir le sens de cette réalité, en même temps de réaliser l'importance de ce corps qui me porte. Et par exemple, nous avons toujours dans le psaume Miserere, ce grand psaume, si c'est toi qui me laves à ce moment-là, je serai plus que neige, plus blanc que neige, et fais que j'entende l'allégresse et la joie, et qu'ils dansent les os qui étaient rongés par le péché. Vous voyez cette réalité physique pour montrer que la réalité de mon corps est là. Dans le texte, justement, dans le texte hébreu, la réalité physique de mon corps, le mot de la chair est très très différent de la chair en latin ou de la chair en grec. La réalité de la chair, c'est la réalité de mes muscles et de mes nerfs. C'est ce qui me fait avancer, ce qui me fait marcher. Et mes os s'agencent mutuellement pour justement faire mon squelette, c'est ce qui me permet de marcher et d'avancer. Et ça revient très souvent, cette idée dans la Bible, et ils sont très impressionnés en fait par le problème des idoles qu'ils voient dans les pays voisins, parce que faut dire que Israël, entre l'Égypte toute puissante avec toutes ses idoles, la Syrie, la Babylonie aussi, est tentée, bien entendu. La Syrie est victorieuse, l'Égypte est toute puissante, et par conséquent, peut-être que leur Dieu serait un petit peu plus efficace que le Seigneur qui s'est révélé à nous, qui est un Dieu unique et saint, dont on n'a pas le droit de faire d'image. Et par conséquent, l'idolâtrie consiste effectivement à ne pas obéir à ce commandement, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, tu n'auras pas d'autre Dieu, et par conséquent, essayer d'offrir un petit sacrifice par-ci aux dieux égyptiens et un autre aux dieux assyriens pour essayer de se protéger un petit peu de chaque côté. Mais justement, parce que la grande tentation, ce sont les idoles. Et nous avons le psaume 115 qui fait une description extraordinaire en disant ces idoles, elles ont des pieds, mais elles ne marchent pas. Elles ont un corps, mais elles ne vivent pas. Elles ont des yeux, mais des yeux qui ne voient pas. Un nez, mais un nez qui ne respire pas. Des oreilles qui n'entendent pas, des mains qui ne saisissent pas. Et par conséquent, vous voyez que l'importance de mes os et de mon squelette, c'est ce qui me fait marcher, donc ce qui me fait avancer, donc ce qui me fait exister. Nous avons aussi d'autres organes qui sont très importants et qui sont en général traduits par un terme générique que l'on trouve élégant et que l'on parle ainsi des entrailles. Mais quand on parle de son ventre, on ne va pas dire, on dira j'ai mal au ventre, mais on ne va pas parler de ses entrailles. Comme ça, ça fait des mois. Ou alors si on veut faire chic. Bon. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est de voir ce que ce mot qui est traduit de cette manière-là, ce qu'il recouvre dans la réalité organique de nos corps. Et nous avons en premier la désignation de l'organe féminin qui donne la vie. Alors, si je le traduis anatomiquement et précisément, ce mot qui est comporté de trois consonnes, parce qu'en hébreu, les mots ont trois consonnes, et vous savez qu'il n'y a pas de voyelle. Et nous avons ce mot qui désigne tout simplement l'utérus. Et l'utérus est l'organe qui donne la vie, et par conséquent, avec cette image, par exemple, c'est toi qui m'as fait surgir du ventre de ma mère et qui m'as mise en sécurité sur sa poitrine. Alors, si vous voulez, ce qu'il faudra, c'est toi qui m'as fait sortir de l'utérus. Bon, c'est pas joli, alors évidemment, mais pour préciser le mot, du ventre de ma mère et tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine, dès la sortie du sein. Alors, c'est traduit aussi, traduit comme ça dans la traduction œcuménique de la Bible, mais c'est pas du tout exact, c'est pour faire joli, enfin, je fus remise à toi, et dès le ventre de ma mère, c'est toi mon Dieu. Alors voilà, dans le psaume 22, les versets 10 et 11, des exemples de traduction stupide, parce que à partir d'un même mot, comme on ne veut pas employer la traduction anatomique réelle, précise, alors on va chercher le sein, on va chercher le ventre, etc. On va chercher ces mots-là, alors que effectivement l'hébreu est une langue charnelle précise et qui désigne donc l'organe qui donne la vie. Mais pourquoi j'insiste tellement sur ce mot-là? Ce mot, encore une fois, qui comporte trois consonnes, c'est que ce mot-là, ce même mot, donc qui désigne précisément au singulier, comme je le dis, l'organe féminin qui donne la vie à l'intérieur duquel l'embryon grandit. Bon. Eh bien, ce mot-là, mis au pluriel, désigne précisément la tendresse de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Alors, comment est-ce que ce mot est traduit dans les Bibles, quand il est mis au pluriel? Alors, on parle de la miséricorde. La miséricorde, ce sont deux mots latins, qui veut dire un cœur qui compatit, un cœur compatissant. Bon, le mot miséricorde, c'est ça ce que ça signifie, transposé du latin au français. Mais ce qui est la réalité physique, et c'est ça ce qui est intéressant dans l'hébreu, c'est de se dire que ce mot-là signifie la tendresse de Dieu qui fait vivre. Et il fait vivre, si vous voulez, comme le corps d'une femme qui, à l'intérieur, fait vivre l'embryon qui est là, en toute sécurité, et qui est bien. Et je trouve que cette image de la tendresse de Dieu est absolument capitale, parce que à la fois le fait de donner la vie physiquement et en même temps de donner la vie spirituellement, puisqu'il nous fait partager cette tendresse. Et je trouve que le terme qui est physique et qui est donc très précis est très important. Par exemple, tous les gestes et tous les actes que nous faisons pour donner la vie autour de nous, y compris dans les interventions les plus banales de la vie quotidienne, sont en fait un reflet de la tendresse divine. Et vous voyez à quel point cela transfigure notre vie, hein, de se dire que tous les gestes les plus anodins de gestes de tendresse nous sont donnés à travers notre corps et sont en même temps reflets de cette tendresse divine. Et par exemple, un bref instant, dit Dieu, je t'avais abandonné, mais sans relâche et avec tendresse, je vais te rassembler. Dans Isaïe, au chapitre 54, au verset 7. Alors, nous avons une autre image qui désigne le ventre, aussi bien masculin que féminin. Et par exemple, une description du méchant, l'homme méchant. Quand je dis l'homme, hein, c'est l'homme et la femme, c'est comment dirais-je, l'être vivant. Voilà, l'être vivant, l'être vivant humain. Bon, il faut. Puisque le mal est si doux à sa bouche, il l'abrite sous sa langue, il le savoure sans le lâcher, et le retient même dans son palais. Enfin, l'aliment se corrompt dans son ventre et finalement se transformera en venin d'aspic. Dans Job, au chapitre 20, les versets 12 à 14. Le mal qui est si doux à sa langue, en fait, si je prends un terme de la théologie ou des péchés qu'on fait, c'est la médisance. Hein, la médisance, c'est très doux à la bouche, c'est très agréable, parce que quand on dit du mal des autres, c'est quelque chose, là, on passe un bon moment. Hein, bon. Mais vous voyez, c'est absolument formidable. Il l'abrite sous sa langue. Il le savoure, il le retient dans son palais, ben c'est tout le moment où on parle, hein, et puis après, l'aliment, ben on le digère, et il va dans son ventre, il se transforme en venin d'aspic, parce qu'en fait, il a fait du mal, et il a fait du mal à celui qui le dit et à ceux qui entendent. Et vous voyez, ce que je trouve absolument passionnant dans le texte biblique, c'est cette réalité du corps. En théologie catholique, on va vous expliquer on a gravement péché parce qu'on a fait ceci, on a fait cela, mais là on nous montre que le corps est partie prenante de la réalité, la réalité de ce que nous sommes. Enfin, nous avons un autre terme, tout ça c'est toujours traduit dans les textes bibliques en général par les entrailles, mais on a aussi un autre texte qui désigne les parties digestives. Alors cette fois-ci, alors évidemment on ne va pas vous dire, on va pas vous parler comme ça de l'estomac ou de l'intestin, donc on vous parle des entrailles, mais nous avons encore un autre mot en hébreu, qu'on traduit de manière pudique par le ventre qui fait souffrir. Et là, on a la réalité des réalités psychosomatiques. L'angoisse qui donne mal au ventre. Vois, Seigneur, c'est pour moi la détresse, et mon ventre en est tout remué. Dans les Lamentations, au chapitre 1, au verset 20. Le chagrin me ronge les yeux, la gorge, le ventre. Au psaume 31, au verset 10. Et par conséquent, vous voyez que nous avons cette image, donc, très bien vue. Hein, quel d'entre nous n'a pas eu mal au ventre la veille d'un examen? Bon, et donc, ceci nous est bien dit, effectivement, l'angoisse me donne mal au ventre. Et par conséquent, la réalité physique du corps nous dit quelque chose de ce que nous sommes et de ce que nous ressentons. Le tout, c'est encore une fois de bien vouloir l'accepter et de bien vouloir être attentif aux signaux de notre corps. Donc vous voyez donc l'importance de cette réalité. Nous avons encore un autre organe qui est très souvent cité dans les psaumes, ce sont les reins. Ah, les reins. Alors, il se trouve que les reins, évidemment, désignent l'organe fonctionnel qui a en charge la purification de mon corps, mais c'est aussi l'endroit fictif où je cache tout ce que je ne veux pas voir, et si bien que, au lieu de traduire concrètement par le terme les reins, très souvent on traduit par le mot conscience. Mais ça n'a rien à voir, justement. Les reins, c'est là où je cache ce que ma conscience ne veut pas voir, c'est-à-dire ce qui me gêne. Vous savez, les dossiers qu'on met à la cave en disant qu'on verra ça plus tard, ou qu'on met au grenier, etc., avec l'idée qu'on ne les ouvrira jamais. Et les reins, c'est l'endroit où l'on cache tout cela. Nous avons par exemple « Je bénis le Seigneur qui me conseille ». Même la nuit, mes reins m'avertissent, dans le psaume 16 au verset 7. Mais comme on veut toujours essayer de mettre le texte biblique à la portée des gens qui vont le lire, souvent on ne met pas mes reins et on met ma conscience. Mais à ce moment-là, ça fait absolument un contresens, parce que ce n'est pas ma conscience vive. C'est à ce moment-là, mon subconscient qui cache dans mes reins ce que je ne veux pas voir. Et vous voyez, ce qui était absolument extraordinaire, c'est qu'il nous est dit par exemple, le Seigneur scrute mon cœur, mais il est aussi capable de percer le secret de mes reins, où se cache le magma de mes pensées, plus ou moins consciente et que je ne veux pas voir. Et par exemple, Jérémie, au chapitre 11, au verset 20, dit « Seigneur Tout-Puissant, qui gouverne avec justice, qui examine les reins et les cœurs, c'est à toi que je remets ma cause. » Et nous avons aussi cette idée, par exemple, à un autre moment, dans le psaume 26, « Rends-moi justice, Seigneur, car ma conduite est intègre, j'ai compté sur toi sans fléchir, examine-moi, soumets-moi à l'épreuve, passe au feu mes reins et mon cœur. » Et par conséquent, nous avons ici cette image qui est à l'intérieur de mon corps, je porte avec moi effectivement un inconscient, un subconscient, un superconscient, de tout ce que je cache et que je ne veux surtout pas mettre à jour. Et par conséquent, on comprend d'autant mieux la prière, vous savez, dans ce grand discours après les Béatitudes, la prière de Jésus, nous faisons des recommandations sur la prière. Et quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre et ton Père qui te connaît mieux que tu connais saura ce dont tu as besoin. Parce que ton Père, lui, il est capable de percer ton cœur et tes reins où tu caches justement ce que tu ne veux pas voir. Et par conséquent, c'est assez extraordinaire dans notre prière, si vous voulez, quand nous nous mettons devant Dieu, de se dire que lui, il nous connaît mieux que nous, et effectivement, c'est exprimé bibliquement, il perce mes reins et mon cœur, et par conséquent, devant lui, je suis transparente, et du coup, il me connaît avec cette tendresse qu'il a pour moi. Nous avons encore un autre exemple. Nous avons l'oreille. Alors, et nous avons quelque chose qui revient très souvent Celui qui a des oreilles, c'est Jésus qui dit ça très très souvent dans les paraboles, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 4 en particulier, vous savez, il y a c'est à propos de la parabole du semeur. Et Jésus termine en disant, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et du coup, les apôtres qui lui disent, nous, on aimerait bien que tu nous expliques à nous. Mais quel rapport avec notre foi? Et notre oreille, elle peut être inerte, comme celle des idoles, lorsque nous sommes insensibles à la parole de Dieu. Mais justement, il y a un psaume absolument magnifique qui est le psaume 40. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu n'as demandé ni holocauste ni oblation. Tu m'as creusé, et alors on a vraiment le verbe bêcher, creuser. Tu m'as creusé des oreilles pour entendre. Et vous voyez que la forme du pavillon de l'oreille, effectivement, elle est faite pour, comme si elle avait été creusée pour qu'on puisse recevoir les sons. Et vous voyez, ça c'est dans le texte biblique, « Tu m'as creusé des oreilles pour entendre », alors que dans le texte de l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux reprend une citation du psaume. Mais au lieu de dire « Tu m'as creusé des oreilles pour entendre », qui est très réaliste, il dit « Tu m'as formé un corps ». Et vous voyez cette différence entre l'hébreu qui est très, très réaliste, très concret, et puis le grec qui est tout de suite très abstrait. Tu m'as formé, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a c'est un verbe vraiment abstrait. Tu m'as formé un corps. Et vous voyez la différence avec l'hébreu. Donc, tu m'as creusé un corps. Alors, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Alors, j'ai dit, voici, Seigneur, je viens avec le rouleau d'un livre écrit pour moi. Mon Dieu, je veux faire ta volonté et ta loi est tout au fond de mon cœur. Et quand, encore une fois, quand je dis « ta loi est tout au fond de mon cœur », eh bien, ta loi, elle est au fond de mon cœur, qui est le lieu où je prends la décision de te suivre ou au contraire de te renier. Et le dimanche des Rameaux, nous avons cette magnifique prophétie d'Isaïe où il est question plusieurs fois de l'oreille dans un seul verset. « Matin après matin, il me fait dresser l'oreille » pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. La parole me réveille chaque matin, et le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas rebellée, j'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Dans Isaïe au chapitre 50, au verset 4. Et il y a effectivement cette réalité de dresser l'oreille et d'ouvrir notre oreille. Et par conséquent, la réalité de l'oreille nous met en rapport avec notre réalité spirituelle. Si vous voulez, la réalité spirituelle, elle passe par notre oreille, elle passe par nos organes, elle passe, il y avait un texte qui était magnifique de Catherine Chalier, qui est un livre qui s'appelait « La sagesse des sens ». Notre sensibilité, l'organe de nos sens, fait partie de notre réalité spirituelle. Et par conséquent, il y a le fait de nous guérir de notre surdité spirituelle. Et par conséquent, c'est quelque chose de très important, quand nous lisons les textes bibliques, de pouvoir... cette surdité spirituelle, c'est de pouvoir comprendre ce sens qui nous est donné. Et c'était ça justement l'intérêt en même temps de l'oreille. Et comme la Bible est aussi emploie beaucoup d'anthropomorphisme pour essayer d'expliquer qui est Dieu le Père, eh bien on donne des oreilles à Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Hein? Alors, et dans les psaumes, je dis très souvent à Dieu, tends l'oreille vers moi, écoute ma prière quand je te supplie. Et vous voyez que la Bible, elle est pleine d'anthropomorphismes parce que nous avons besoin d'avoir des images. Pour vous donner un exemple de la manière dont les artistes ont compris le problème de l'image de Dieu, nous avons jusqu'à la fin du XIIe siècle des manuscrits tout à fait extraordinaires qui nous racontent la création jour après jour. Et la création est donc qui représente Dieu qui va créer le ciel, la terre, les grands luminaires, les petits luminaires, les arbres, les poissons, les animaux. Bon. Mais comment représenter Dieu puisque personne ne l'a jamais vu? Eh bien, c'est ça ce qui est absolument magnifique, c'est que les artistes, des manuscrits, les miniatures, nous représentent celui, mon père, nul ne l'a vu, mais moi, mais qui m'a vu a vu mon Père, nous dit l'évangile de Jean à propos de Jésus. Et par conséquent, on nous représente Jésus. Et pour qu'on identifie bien Jésus, qui m'a vu a vu le Père, on lui met une auréole et une auréole christique, c'est-à-dire une auréole avec une croix à l'intérieur, pour bien montrer que c'est Jésus que l'on voit. Et pour nous donner cette image, justement, de la création, eh bien, on nous montre l'image du Christ. Alors après, ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'il va y avoir une déviation artistique et iconographique qui va être très mauvaise, où l'on va vouloir, au XIVe siècle en particulier, représenter Dieu le Père, et à ce moment-là, on en fait un vieillard, puisque c'est le Père, donc on lui fait une barbe blanche, on lui fait des cheveux blancs, et on fait énormément de déviations, parce qu'on a aussi des miniatures à ce moment-là qui le représentent coiffé d'une tiara, Dieu le Père, et gouvernant le monde. Donc, ça. Mais là, ce serait le sujet d'un autre exposé, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais vous voyez, cette idée, toujours à propos de l'oreille, c'est que Dieu est une oreille, et je peux lui dire, dans les psaumes le disent très souvent, tends l'oreille vers moi. Tend l'oreille vers moi, comme si Dieu avait effectivement une oreille pour m'entendre. Parce que, effectivement, à travers le son, et le son, et en particulier, il faut savoir que les psaumes étaient récités à haute voix, et donc c'était très important de pouvoir parler à haute voix pour que Dieu entende. Et ça nous rappelle l'épisode de la malheureuse Anne, la future mère du prophète Samuel. Anne était mariée à Elkana, qui avait deux femmes. Il y en avait une qui avait plein d'enfants et puis l'autre qui n'en avait pas. Donc celle qui n'en avait pas était très malheureuse. C'est des épisodes qu'on trouve très souvent dans la Bible. Et donc elle va prier au temple de Silo. Et elle prie à haute voix tout en pleurant. Donc elle n'articule pas bien sa prière. Et le prêtre, à ce moment-là, la regarde et lui dit brutalement, « Va cuver ton vin ailleurs, tu es ivre, tu n'es pas capable de bien dire ta prière. » Et à ce moment-là, elle explique qu'elle vient supplier le Seigneur en espérant qu'elle sera enceinte. Et alors à ce moment-là, le prêtre se reprend et lui dit, eh bien que le Seigneur t'accorde ce que tu lui demandes. Mais vous voyez, cette image dans la Bible qui est si importante, pour que Dieu entende ma prière, l'idée que je la lui dise bien en articulant et à haute voix. Vous voyez, tout cela, ce sont des images, mais des images qui sont très parlantes. Alors, encore une minute, c'est possible? Nous avons les mains. Les mains, nos mains. Nos mains, eh bien, elles sont très importantes. Les mains actives commanderont, tandis que les mains paresseuses mèneront au travail forcé, dans les Proverbes au chapitre 12 au verset 24. Et le paresseux, lui, il plonge carrément sa main dans le plat, mais il est tellement paresseux qu'il n'a même plus la force de ramener ce qu'il a pris dans le plat jusqu'à sa bouche. Une manière, si vous voulez, de condamner la paresse. Dans les Proverbes, toujours au chapitre 12, au chapitre 19, au verset 24. Et une chose qui est aussi, une autre image, mieux vaut dans le creux de la main, plein de repos. Vous voyez cette image, ça c'est tout à fait typique de la poésie biblique. Ma main qui est faite pour saisir, eh bien je vais saisir le repos. Alors vous me direz que le repos, ça ne se saisit pas. Mais vous voyez, c'est cette image de la main, image de l'association de la main et du repos. Eh bien, mieux vaut le creux de la main plein de repos que des poignées de travail qui sont poursuite du vent. Dans le livre du Coëlette, au chapitre 4, au verset 6, vous voyez, le creux de la main, j'ai travaillé, alors que dans ma main, qu'il y ait une main en paix, vous voyez, une main qui soit calme. Et par conséquent, nous voyons dans les textes bibliques, à quel point Jésus se sert de sa main pour guérir et pour toucher. Vous vous souvenez, les aveugles, il fait de la boue pour mettre de la boue sur les paupières des aveugles, et surtout, ce qui n'était pas dans le texte qu'on a lu aujourd'hui à propos de la guérison des Samaritains, parce qu'il ne leur dit rien, il leur dit « allez vous montrer au prêtre ». Mais d'autres moments, on a le Samaritain, il touche le Samaritain, autrement dit, il accepte de prendre sur lui la lèpre, ce qui est une très belle image, parce qu'elle montre que quand il nous pardonne, eh bien, il nous touche parce qu'il prend sur lui nos péchés. Et cela nous renvoie à l'épisode d'Isaïe, au chapitre 53. Et nous pensions qu'il était puni, frappé par Dieu. Or, c'était nos fautes qu'il portait. Et puis, puisqu'on parle des mains, on va parler des pieds, bien entendu. Abraham, quand il reçoit les trois visiteurs, eh bien, il voit au chapitre 18, le premier réflexe qu'il dit, eh bien, c'est qu'il faut leur laver les pieds. Nous avons une autre image aussi dans la Bible, mais qui est très réaliste. Les filles de Jérusalem, qui habitaient Jérusalem à l'époque d'Isaïe, eh bien, elles font sonner les grelots des bracelets qu'elles portent à leurs pieds. Dans au chapitre 3, au verset 16, et alors c'est pour montrer, c'est une grande description d'Isaïe pour montrer que la cité est tout à fait perverse, que les gens ne sont pas sérieux, etc., qu'ils offrent des sacrifices aux idoles, et pour montrer dépravation des filles de Jérusalem, eh bien, on nous donne ces descriptions-là. Mais, beaucoup plus spirituellement, le filet qui emprisonne mes pieds. J'ai le sentiment de ne pas être libre, et c'est souvent ce que j'exprime dans les psaumes ou dans ma prière. Je n'y arrive pas, je ne peux pas faire ce que je veux. Et le langage biblique est un langage concret, réaliste. Et par conséquent, c'est comme si j'avais mes pieds qui étaient pris dans le filet du chasseur. Vous savez que... il y avait, la manière de faire, c'était qu'il creusait des trous, des gros trous, et puis il mettait des filets dessus, il recouvrait de branchages pour pouvoir prendre les bêtes sauvages, en particulier les grosses bêtes comme les hyènes ou comme éventuellement les lions. Et d'où cette image de me faire tomber dans un piège et en même temps d'avoir justement les pieds qui sont emprisonnés. Et nous avons le filet qui emprisonne mes pieds dans le psaume 25, au verset 15. Nous avons aussi cette image qui est très parlante, c'est la nécessité pour mes pieds de marcher sur un sol dur. Et à ce moment-là, cette image renvoie au passage de la mer Rouge où les Hébreux sont passés à pied sec. Et cette image de marcher à pied sec sur un sol dur est très impressionnante. Et en parallèle, vous avez l'image des sables mouvants, où par exemple je coule dans l'eau profonde, le courant m'emporte, je m'épuise à crier, j'ai le gosier en feu, je coule dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Cette image de sable mouvant où effectivement je ne peux pas lutter contre la boue qui m'emporte, contre le sol qui n'est pas solide. Et vous voyez à quel point le texte biblique est très friand d'images réalistes, concrètes, qui nous montrent notre vie courante et à quel point on se sert d'images de la vie courante, d'images très réalistes, pour pouvoir exprimer notre prière. Et à travers ces images-là, notre corps est absolument central. Et par conséquent, notre corps n'est pas notre ennemi, bien entendu, comme trop souvent dans une forme de pénitence qui était tout à fait dramatique et qui était vraiment contraire, absolument contraire à la Bible. Le corps n'est pas notre ennemi, le corps n'est pas glouton, le corps n'est pas méchant, il est l'instrument, il est ce que nous sommes. Et par conséquent, nous n'avons pas du tout dans la Bible cette division entre le corps et l'âme, comme dans le texte hébreu. Nous avons la réalité de la personne. Et je terminerai avec cette image, l'image de la gorge, ma gorge. À travers ma gorge passe mon souffle vital. Et si on m'étrangle, eh bien, je meurs. Et par conséquent, mon souffle vital passe à travers ma gorge. Et par conséquent, ma gorge, c'est aussi mon âme et c'est aussi ma personne. C'est moi. Et par conséquent, à travers un même mot en hébreu, ce même mot peut signifier à la fois la gorge, j'ai mal à la gorge, bon, mais il peut aussi signifier j'ai mal à la gorge à force d'avoir crié, à force d'avoir appelé le Seigneur et qu'il n'a pas répondu. Bon, mais il peut aussi signifier, il est quelquefois traduit par mon âme est désespérée. Mais mon âme est désespérée, c'est moi qui suis désespérée. Et il est très souvent, ce mot est très souvent traduit aussi par le pronom personnel. D'où la réalité physique, voyez, entre le corps et l'âme, eh bien, il y a ma personne. Et c'est ce qui s'exprime à travers les psaumes, parce que ma personne, c'est mon corps, ma sensibilité, ma spiritualité, la réalité de ma vie au jour le jour. Voilà.